Chapitre 11. La politique de M. Mazarin. Au lieu de l'hésitation avec laquelle il avait, un quart d'heure auparavant, abordé le cardinal, on pouvait lire alors dans les yeux du jeune roi cette volonté contre laquelle on peut lutter, qu'on brisera peut-être par sa propre impuissance, mais qui, au moins, gardera, comme une plaie au fond du cœur, le souvenir de sa défaite. « Cette fois, monsieur le cardinal, il s'agit d'une chose plus facile à trouver qu'un million. » « Vous croyez cela, sire ?» dit Mazarin en regardant le roi de cet œil rusé qui lisait au plus profond des cœurs. « Oui, je le crois. Et lorsque vous connaîtrez l'objet de ma demande... Et croyez-vous donc que je ne le connaisse pas, sire ? Vous savez ce qui me reste à vous dire ? Écoutez, sire, voilà les propres paroles du roi Charles. Oh, par exemple ! Écoutez, si cet avare, ce pleutre d'Italien, a-t-il dit ? Monsieur le cardinal ! Voilà le sens, sinon les paroles. Eh, mon Dieu, je ne lui en veux pas pour cela, sire. Chacun voit avec ses passions. Il a donc dit « Et si ce pleutre d'Italien vous refuse le million que nous lui demandons, sire, si nous sommes forcés, faute d'argent, de renoncer à la diplomatie, eh bien, nous lui demanderons 500 gentilshommes. » Le roi tressaillit, car le cardinal ne s'était trompé que sur le chiffre. « N'est-ce pas, sire, que c'est cela ? » s'écria le ministre avec un accent triomphateur. Puis il a ajouté de belles paroles. Il a dit « J'ai des amis de l'autre côté du détroit. À ces amis, il manque seulement un chef et une bannière. Quand ils me verront, quand ils verront la bannière de France, ils se rallieront à moi, car ils comprendront que j'ai votre appui. Les couleurs de l'uniforme français vaudront près de moi le million que M. de Mazarin nous aura refusé. Car il savait bien que je le refuserais, ce million. » Je vaincrai avec ces 500 gentilshommes, sire, et tout l'honneur en sera pour vous. Voilà ce qu'il a dit, ou à peu près, n'est-ce pas? En entourant ces paroles de métaphores brillantes, d'images pompeuses, car ils sont bavards dans la famille. Le père a parlé jusque sur l'échafaud. La sueur de la honte coulait au front de Louis. Il sentait qu'il n'était pas de sa dignité d'entendre ainsi insulter son frère, mais il ne savait pas encore comment on voulait, surtout en face de celui devant qui il avait vu tout plier, même sa mère. Enfin, il fit un effort. « Mais, dit-il, monsieur le cardinal, ce n'est pas 500 hommes, c'est 200. »« Vous voyez bien que j'avais deviné ce qu'il demandait. »« Je n'ai jamais nié, monsieur, que vous n'eussiez un œil profond. » Et c'est pour cela que j'ai pensé que vous ne refuseriez pas à mon frère Charles une chose aussi simple et aussi facile à accorder que celle que je vous demande en son nom, monsieur le cardinal, ou plutôt au mien. « Sire, dit Mazarin, voilà 30 ans que je fais de la politique. J'en ai fait d'abord avec monsieur le cardinal de Richelieu, puis tout seul. Cette politique n'a pas toujours été très honnête, il faut l'avouer, mais elle n'a jamais été maladroite. Or, celle que l'on propose en ce moment à votre majesté est malhonnête et maladroite à la fois.
Malhonnête, monsieur ?
Sire, vous avez fait un traité avec M. Cromwell.
Oui, et dans ce traité même, M. Cromwell a signé au-dessus de moi.
Pourquoi avez-vous signé si bas, sire ? M. Cromwell a trouvé une bonne place, il l'a prise. C'était assez son habitude. J'en reviens donc à M. Cromwell. Vous avez fait un traité avec lui, c'est-à-dire avec l'Angleterre, puisque, quand vous avez signé ce traité, M. Cromwell était l'Angleterre. M. Cromwell est mort.
Vous croyez cela, sire ?
Mais sans doute, puisque son fils Richard lui a succédé et a abdiqué même.
Eh bien, voilà justement. Richard a hérité à la mort de Cromwell et l'Angleterre à l'abdication de Richard.
Le traité faisait partie de l'héritage, qu'il fût entre les mains de M. Richard ou entre les mains de l'Angleterre. Le traité est donc bon toujours, valable autant que jamais. Pourquoi l'éluderiez-vous, sire ? Qu'y a-t-il de changé ?
Charles II veut aujourd'hui ce que nous n'avons pas voulu il y a 10 ans. Mais c'est un cas prévu. Vous êtes l'allié de l'Angleterre, sire, et non celui de Charles II. C'est malhonnête sans doute, au point de vue de la famille, d'avoir signé un traité avec un homme qui a fait couper la tête au beau-frère du roi votre père, et d'avoir contracté une alliance avec un parlement, qu'on appelle là-bas un parlement croupion. C'est malhonnête, j'en conviens, mais ce n'était pas maladroit au point de vue de la politique, puisque, grâce à ce traité, j'ai sauvé à votre majesté, mineure encore, les tracas d'une guerre extérieure, que la fronde... Vous vous rappelez la fronde, sire ? Le jeune roi baissa la tête. Que la fronde eût fatalement compliqué. Et voilà comme quoi je prouve à votre majesté que changer de route maintenant, sans prévenir nos alliés, serait à la fois maladroit et malhonnête. Nous ferions la guerre en mettant les torts de notre côté, nous la ferions méritant qu'on nous la fît, et nous aurions l'air de la craindre tout en la provoquant. Car une permission à 500 hommes, à 200 hommes, à 50 hommes, à 10 hommes, c'est toujours une permission. Un Français, c'est la nation. Un uniforme, c'est l'armée. Supposez, par exemple, sire, que vous avez la guerre avec la Hollande, ce qui tôt ou tard arrivera certainement, ou avec l'Espagne, ce qui arrivera peut-être si votre mariage manque. Mazarin regarda profondément le roi. Et il y a 1000 causes qui peuvent faire manquer votre mariage. Eh bien, approuveriez-vous l'Angleterre d'envoyer aux Provinces Unies ou à l'Infante un régiment, une compagnie, une escouade même de gentilshommes anglais? Trouveriez-vous qu'elle se renferme honnêtement dans les limites de son traité d'alliance? Louis écoutait. Il lui semblait étrange que Mazarin invoquât la bonne foi, lui, l'auteur de tant de supercheries politiques qu'on appelait des mazarinades. « Mais enfin, dit le roi, sans autorisation manifeste, je ne puis empêcher des gentilshommes de mon état de passer en Angleterre si tel est leur bon plaisir. »« Vous devez les contraindre à revenir, sire, ou tout au moins protester contre leur présence en ennemi dans un pays allié. » »« Mais enfin, voyons, vous, monsieur le cardinal, vous, un génie si profond, cherchons un moyen d'aider ce pauvre roi sans nous compromettre. » « Et voilà justement ce que je ne veux pas, mon cher sire, » dit Mazarin. « L'Angleterre agirait d'après mes désirs qu'elle n'agirait pas mieux. Je dirigerai d'ici la politique de l'Angleterre que je ne la dirigerai pas autrement. Gouverner ainsi qu'on la gouverne, l'Angleterre est pour l'Europe un nid éternel à procès. La Hollande protège Charles II. Laissez faire la Hollande. Ils se fâcheront, ils se battront. Ce sont les deux seules puissances maritimes. Laissez-les détruire leurs marines l'une par l'autre. Nous construirons la nôtre avec les débris de leurs vaisseaux, et encore quand nous aurons de l'argent pour acheter des clous. » « Oh, que tout ce que vous me dites là est pauvre et mesquin, monsieur le cardinal !» « Oui, mais comme c'est vrai, sire, avouez-le. Il y a plus. J'admets un moment la possibilité de manquer à votre parole et d'éluder le traité. Cela se voit souvent qu'on manque à sa parole et qu'on élude un traité. Mais c'est quand on a quelque grand intérêt à le faire ou quand on se trouve par trop gêné par le contrat. Eh bien, vous autoriseriez l'engagement qu'on vous demande. La France, sa bannière, ce qui est la même chose, passera le détroit et combattra. La France sera vaincue. Pourquoi cela ? Voilà, ma foi, un habile général que Sa Majesté Charles II, et Worcester nous donne de belles garanties. Il n'aura plus affaire à Cromwell, monsieur. Oui, mais il aura affaire à Monk, qui est bien autrement dangereux. Ce brave marchand de bière dont nous parlons était un illuminé. Il avait des moments d'exaltation, d'épanouissement, de gonflement, pendant lesquels il se fendait comme un tonneau trop plein. Par les fentes alors s'échappaient toujours quelques gouttes de sa pensée, et à l'échantillon on connaissait la pensée tout entière. Cromwell nous a ainsi plus de 10 fois laissé pénétrer dans son âme, quand on croyait cette âme enveloppée d'un triple airain, comme dit Horace. Mais Monk, ah, sire, Dieu vous garde de faire jamais de la politique avec M. Monk. C'est lui qui m'a fait depuis un an tous les cheveux gris que j'ai. Monk n'est pas un illuminé, lui, malheureusement. C'est un politique. Il ne se fend pas, il se resserre. Depuis 10 ans, il a les yeux fixés sur un but et nul n'a pu encore deviner lequel. Tous les matins, comme le conseiller Louis XI, il brûle son bonnet de la nuit. Aussi, le jour où ce plan lentement et solitairement mûri éclatera, il éclatera avec toutes les conditions de succès qui accompagnent toujours l'imprévu. Voilà Monk, sire, dont vous n'aviez peut-être jamais entendu parler, dont vous ne connaissiez peut-être pas même le nom, avant que votre frère Charles II, qui sait ce qu'il est, lui, ne le prononçât devant vous. C'est-à-dire une merveille de profondeur et de ténacité, les deux seules choses contre lesquelles l'esprit et l'ardeur s'émoussent. Sire, j'ai eu de l'ardeur quand j'étais jeune, j'ai eu de l'esprit toujours. Je puis m'en vanter puisqu'on me le reproche. J'ai fait un beau chemin avec ces deux qualités, puisque de fils d'un pêcheur de Pitchin, je suis devenu premier ministre du roi de France, et que dans cette qualité, votre majesté veut bien le reconnaître, j'ai rendu quelques services au trône de votre majesté. Eh bien, sire, si j'eusse rencontré Monk sur ma route au lieu d'y trouver M. de Beaufort, M. de Retz ou M. le prince, eh bien, nous étions perdus. Engagez-vous à la légère, sire, et vous tomberez dans les griffes de ce soldat politique. Le casque de Monk, sire, est un coffre de fer au fond duquel il enferme ses pensées et dont personne n'a la clé. Aussi, près de lui, ou plutôt devant lui, je m'incline, sire, moi qui n'ai qu'une barrette de velours. Que pensez-vous donc que veuille Monk, alors ? Eh, si je le savais, sire, je ne vous dirais pas de vous défier de lui, car je serais plus fort que lui. Mais avec lui, j'ai peur de deviner. De deviner, vous comprenez mon mot ? Car si je crois avoir deviné, je m'arrêterai à une idée, et malgré moi, je poursuivrai cette idée. Depuis que cet homme est au pouvoir là-bas, je suis comme ces damnés de Dante à qui Satan a tordu le cou, qui marchent en avant et qui regardent en arrière. Je vais du côté de Madrid, mais je ne perds pas de vue Londres. Deviner, avec ce diable d'homme, c'est se tromper. Et se tromper, c'est se perdre. Dieu me garde de jamais chercher à deviner ce qu'il désire. Je me borne, et c'est bien assez, à espionner ce qu'il fait. Or, je crois, vous comprenez la portée du mot, je crois, relativement à Monk, n'engage à rien. Je crois qu'il a tout bonnement envie de succéder à Cromwell. Votre Charles II lui a déjà fait faire des propositions par 10 personnes. Il s'est contenté de chasser les 10 entremetteurs sans rien leur dire autre chose que « Allez-vous-en ou je vous fais pendre ». C'est un sépulcre que cet homme. Dans ce moment-ci, Monk fait du dévouement au Parlement croupion. De ce dévouement, par exemple, je ne suis pas dupe. Monk ne veut pas être assassiné. Un assassinat l'arrêterait au milieu de son œuvre et il faut que son œuvre s'accomplisse. Aussi, je crois, mais ne croyez pas ce que je crois, je dis je crois par habitude, je crois que Monk ménage le Parlement jusqu'au moment où il le brisera. On vous demande des épées, mais c'est pour se battre contre Monk. Dieu nous garde de nous battre contre Monk, sire, car Monk nous battra. Et battu par Monk, je ne m'en consolerai de ma vie. Cette victoire, je me dirai que Monk la prévoyait depuis 10 ans. Pour Dieu, sire, par amitié pour vous, si ce n'est par considération pour lui, que Charles II se tienne tranquille. Votre Majesté lui fera ici un petit revenu, elle lui donnera un de ses châteaux. Eh, attendez donc, mais je me rappelle le traité, ce fameux traité dont nous parlions tout à l'heure. Votre Majesté n'en a même pas le droit de lui donner un château. Comment cela ? Oui, oui, Sa Majesté s'est engagée à ne pas donner l'hospitalité au roi Charles, à le faire sortir de France même. C'est pour cela que vous ferez comprendre à votre frère qu'il ne peut rester chez nous, que c'est impossible, qu'il nous compromet, ou moi-même.
« Assez, monsieur, » dit Louis XIV en se levant. « Que vous me refusiez 1 million, vous en avez le droit. Vos millions sont à vous. Que vous me refusiez 200 gentilshommes, vous en avez le droit encore, car vous êtes Premier ministre et vous avez, aux yeux de la France, la responsabilité de la paix et de la guerre. Mais que vous prétendiez m'empêcher, moi, le roi, de donner l'hospitalité au petit-fils de Henri IV, à mon cousin Germain, aux compagnons de mon enfance, là s'arrête votre pouvoir, là commence ma volonté. »
Sire, dit Mazarin, enchanté d'en être quitte à si bon marché, et qui n'avait d'ailleurs si chaudement combattu que pour en arriver là, sire, je me courberai toujours devant la volonté de mon roi. Que mon roi garde donc près de lui, ou dans un de ses châteaux, le roi d'Angleterre, que Mazarin le sache, mais que le ministre ne le sache pas.
« Bonne nuit, monsieur, » dit Louis XIV. « Je m'en vais désespéré. »
« Mais convaincu, c'est tout ce qu'il me faut, sire, » répliqua Mazarin. Le roi ne répondit pas et se retira tout pensif, convaincu, non pas de tout ce que lui avait dit Mazarin, mais d'une chose au contraire qu'il s'était bien gardé de lui dire, c'était de la nécessité d'étudier sérieusement ses affaires et celles de l'Europe, car il les voyait difficiles et obscures. Louis retrouva le roi d'Angleterre, assis à la même place où il l'avait laissé. En l'apercevant, le prince anglais se leva. Mais du premier coup d'œil, il vit le découragement écrit en lettres sombres sur le front de son cousin. Alors, prenant la parole le premier, comme pour faciliter à Louis l'aveu pénible qu'il avait à lui faire, « Quoi qu'il en soit, dit-il, je n'oublierai jamais toute la bonté, toute l'amitié dont vous avez fait preuve à mon égard. »«
Hélas, répliqua sourdement Louis XIV, bonne volonté stérile, mon frère. »
Charles II devint extrêmement pâle, passa une main froide sur son front et lutta quelques instants contre un éblouissement qui le fit chanceler.
« Je comprends, dit-il enfin, plus d'espoir. »
Louis saisit la main de Charles II. « Attendez, mon frère, dit-il, ne précipitez rien, tout peut changer. Ce sont les résolutions extrêmes qui ruinent les causes. Ajoutez, je vous en supplie, une année d'épreuve encore aux années que vous avez déjà subies. Il n'y a, pour vous décider à agir en ce moment plutôt qu'en un autre, ni occasion ni opportunité. Venez avec moi, mon frère. Je vous donnerai une de mes résidences, celle qu'il vous plaira d'habiter. J'aurai l'œil avec vous sur les événements, nous les préparerons ensemble. Allons, mon frère, du courage. » Charles II dégagea sa main de celle du roi et, se reculant pour le saluer avec plus de cérémonie,
« De tout mon cœur, merci, répliqua-t-il, sire, mais j'ai prié sans résultat le plus grand roi de la terre. Maintenant, je vais demander un miracle à Dieu. »
Et il sortit sans vouloir en entendre davantage, le front haut, la main frémissante, avec une contraction douloureuse de son noble visage et cette sombre profondeur du regard qui, ne trouvant plus d'espoir dans le monde des hommes, semble aller au-delà en demander à des mondes inconnus. L'officier des mousquetaires, en le voyant ainsi passer livide, s'inclina presque à genoux pour le saluer. Il prit ensuite un flambeau, appela 2 mousquetaires et descendit avec le malheureux roi l'escalier désert, tenant à la main gauche son chapeau, dont la plume balayait les degrés. Arrivé à la porte, l'officier demanda au roi de quel côté il se dirigeait afin d'y envoyer les mousquetaires. « Monsieur, répondit Charles II à demi-voix, vous qui avez connu mon père, dites-vous, peut-être avez-vous prié pour lui? Si cela est ainsi, ne m'oubliez pas non plus dans vos prières. Maintenant, je m'en vais seul et vous prie de ne point m'accompagner ni de me faire accompagner plus loin. » L'officier s'inclina et renvoya ses mousquetaires dans l'intérieur du palais. Mais lui demeura un instant sous le porche pour voir Charles II s'éloigner et se perdre dans l'ombre de la rue tournante. « À celui-là, comme autrefois à son père, murmura-t-il, Athos, s'il était là, dirait avec raison, salut à la majesté tombée. » Puis, montant les escaliers, « Ah, le vilain service que je fais, dit-il à chaque marche. Ah, le piteux maître! La vie ainsi faite n'est plus tolérable, et il est temps enfin que je prenne mon parti. Plus de générosité, plus d'énergie, continua-t-il. Allons, le maître a réussi, l'élève est atrophié pour toujours. Mordius, je n'y résisterai pas. Allons, vous autres, continua-t-il en entrant dans l'antichambre, que faites-vous là à me regarder ainsi? Éteignez ces flambeaux et rentrez à vos postes. Ah, vous me gardiez! Oui, vous veillez sur moi, n'est-ce pas, bonnes gens? Brave niais, je ne suis pas le duc de Guise, allez, et l'on ne m'assassinera pas dans le petit couloir. D'ailleurs, ajouta-t-il tout bas, ce serait une résolution, et l'on ne prend plus de résolution depuis que monsieur le cardinal de Richelieu est mort. Ah! À la bonne heure, c'était un homme, celui-là. C'est décidé. Dès demain, je jette la casaque aux orties. Puis, se ravisant, « Non, dit-il, pas encore. J'ai une superbe épreuve à faire et je la ferai. Mais celle-là, je le jure, ce sera la dernière, Mordius !» Il n'avait pas achevé qu'une voix partit de la chambre du roi. « Monsieur le lieutenant !» dit cette voix. « Me voici, répondit-il. Le roi demande à vous parler. » « Allons, dit le lieutenant, peut-être est-ce pour ce que je pense. » Et il entra chez le roi.